Alors, bienvenue à l'Église de l'Espoir. Je m'appelle Yannick. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous venez peut-être. Je suis un des pasteurs ici à l'Église et puis c'est moi qui vais apporter l'exposé biblique. On va aller dans la parole de Dieu encore ce matin. Alors, ce matin, on poursuit notre série et juste pour introduire la lecture avant d'aller dans un mot de prière, juste pour se replacer dans la série. Donc, c'est vraiment une série où on fait une grande introduction à l'année. Le mois de janvier, le mois de février, on consacre ça à une série. La première partie de notre série, on l'a intitulée « Résolution 2019 », dans le sens de résolution, une qualité d'écran. On veut clarifier notre manière de voir les choses, pas prendre des résolutions, mais voir plus clair. Et donc, on a parlé de l'importance de la présence de la parole de Dieu dans nos vies au quotidien. Lire et méditer les Écritures, prenez un plan de lecture, n'importe lequel. Identifiez un moment dans votre journée où vous allez lire les Écritures, méditer sur les Écritures, prendre un verset, puis dire « ça, c'est le verset que je vais apporter avec moi aujourd'hui dans la journée ». Prenez le temps juste de lire la Bible en famille autour du repas, juste lire la Bible en famille, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'ici, à l'Église, on a une lecture des Écritures chaque dimanche, parce que Dieu se fait connaître à travers sa parole. Deuxièmement, justement, Basile. Le pasteur Basile nous a conduits dans la prière. On a parlé de l'importance de répondre à ce que Dieu nous dit dans sa parole à travers la prière, d'aller parler avec Dieu, puis rencontrer ce Dieu de l'impossible, merveilleux, pour aller vers lui, puis lui demander de venir déplacer les montagnes dans nos vies, nous faire grandir en lui, l'adorer, le célébrer. C'est la prière. Ensuite, on a parlé de notre identité comme chrétien. À partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. On va faire allusion à ça un petit peu ce matin dans l'exposé. Et cette identité-là fait que je ne suis plus une victime de mon environnement, je ne suis plus une victime de ce qui se passe dans ma vie. Ce que je suis premièrement et fondamentalement m'est accordé par Dieu. C'est mon statut devant Dieu, c'est ce que Dieu déclare sur moi qui définit qui je suis. Et c'est à partir de ça que je vais interagir avec le monde. C'est à partir de ça que je vais réagir avec les gens. Les gens pourraient ne pas m'aimer, je demeure toujours un bien-aimé. Et donc, un chrétien qui ne se sent pas aimé, c'est un chrétien qui a besoin de grandir dans l'appréciation de son identité. Ensuite de ça, ce qu'on a vu la semaine suivante, c'est cette identité-là individuelle qu'on a en Jésus-Christ vient définir notre identité comme Église, comme communauté. Et ça va instruire notre manière d'interagir les uns avec les autres. Je vais toujours chercher à agir envers toi en raison à la lumière de ce que Jésus a fait pour moi tout le temps, constamment. Ça va instruire, ça va éclairer comment on interagit ensemble. Puis enfin, on avait terminé cette première portion-là de la série en disant ce que ça a comme impact aussi, c'est que tous les gestes que je vais poser, chaque parole que je vais dire, chaque geste que je vais poser, je vais le faire dans mon cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de cette nouvelle identité-là, je suis toujours un ambassadeur de Christ. Je veux toujours parler et agir en étant conscient que c'est la parole de Christ que j'apporte. Qu'à travers le geste que je pose, Jésus-Christ est en train d'aimer les gens, est en train de servir les gens, est en train de prendre soin d'eux. Et si, comme Église, ces cinq choses-là viennent éclairer notre manière de voir l'année, on est ailleurs. On est ailleurs comme Église et on va vivre ce que l'Église est appelée à être, une bénédiction, une communauté où c'est bon de vivre, d'être au milieu de cette communauté-là. La semaine dernière, pasteur Jean-Pierre Gagné est venu commencer la deuxième portion de cette série-là qu'on appelle « Émission ». On veut s'en aller maintenant en mission. Si Dieu nous a donné tout ça, ces cinq choses-là qu'on a vues, c'est que Dieu nous appelle à redonner maintenant, à tourner les regards vers l'extérieur, puis aller apporter ce message-là. Et la semaine dernière, on a parlé de l'idée que, en réalité, ce que l'Évangile fait en nous, l'Évangile crée des débordements. Puis c'est ça qu'on voit à travers le livre des Actes. Jean-Pierre va revenir encore avec un dernier message dans quelques semaines, mais c'est ça qu'on voit à travers le livre des Actes. L'Évangile amène des débordements d'amour, de charité, et puis l'Église va se multiplier parce que l'Église déborde de ce que l'Évangile a fait en nous. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est quel est notre rôle à nous dans tout ça? Concrètement, OK, on déborde, mais c'est quoi notre rôle à nous? On va voir ensemble que notre rôle est plus simple qu'on pourrait le penser. Notre rôle est moins lourd qu'on pourrait le penser. Quand on pense à la mission, à annoncer l'Évangile à l'extérieur, souvent c'est intimidant. Mais on va voir comment ça se passe au début de l'Évangile de Jean, dans Jean 1. Et on a Jésus qui commence à appeler ses premiers disciples. Il y a quelque chose qui va se passer là, qui est vraiment merveilleux, puis qui nous parle de l'Évangile et qui nous aide, nous, à comprendre quel est notre rôle dans tout ça. Alors, on va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Père éternel, ce matin, on est ici pour s'arrêter. S'arrêter, reconnaître que tu es Dieu, t'élever des chants de louange, te célébrer dans nos cœurs, Seigneur. Et une des manières qu'on fait ça, Seigneur, c'est en faisant silence dans notre esprit, en mettant de côté les tracas de la semaine, les inquiétudes, les préoccupations, puis simplement en disposant nos cœurs à être réceptifs à ta parole, Seigneur. Parce que nous croyons que cette Bible, c'est toi qui l'as inspirée, c'est toi qui parles, c'est toi qui nous parles, Seigneur. Et nous croyons que ton Esprit Saint est aussi présent au milieu de nous. On croit, Seigneur, que cette dimension spirituelle bien réelle à notre être et que toi, tu es là, que tu peux prendre, Seigneur, ta parole et la rendre encore plus vivante et personnelle dans chacune de nos vies. Alors, on te prie de venir nous parler ce matin, Seigneur, parce que nous t'écoutons. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Jean, chapitre 1, versets 35 à 51, dans la nouvelle édition de Genève. Jean, chapitre 1, versets 35 à 51, nouvelle édition de Genève. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. » ce qui signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth « Quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois !» Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. » « Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. »
Merci. Merci, Esther. Quand on parle de mission, peut-être que vous n'êtes pas familier avec le langage, mais on dit souvent que l'Église est en mission. En réalité, le Seigneur a dit à ses disciples, il leur a donné une grande mission, une grande commission lorsqu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et puis plus tard, il va dire « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand on parle de la mission, c'est ce mandat qui nous a été donné d'aller annoncer l'Évangile, d'aller faire des disciples. D'accord? C'est vraiment ça. L'Église a cette mission-là. C'est une des choses qui trouble un peu les gens avec l'Église. On est là, puis on veut que les gens adhèrent à la même foi que nous. On veut leur partager cela. C'est vrai. C'est vrai. Christ nous a donné cette mission-là, puis Christ est tout pour nous. C'est quoi notre rôle à nous dans la mission? Il y a trois mots qui résument ce qu'on va voir ensemble ce matin, dans le passage qui a été lu. Viens et vois. Viens et vois. Ce que je vous propose ce matin, c'est que notre rôle à nous dans la mission se résume à une seule chose. Inviter notre prochain à rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'est notre rôle dans la mission. Notre rôle à nous, c'est de les conduire à Jésus-Christ. Une fois qu'on a fait ça, après ça, on peut prier. Notre travail s'arrête là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus de Nazareth est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Et ceux qui ont cru en lui ont une seule chose à faire: inviter leurs amis à rencontrer Jésus. C'est la seule chose qu'on a à faire. Si Jésus est vraiment le Christ, le Sauveur du monde, s'il est vraiment si extraordinaire qu'il le prétend, c'est lui qui va faire la balance du travail. On va voir ça un petit peu plus loin dans la série. On va parler du rôle de l'Esprit dans la conversion d'une personne. Quand une personne croit en Jésus, le rôle de l'Esprit, je ne vais pas m'attarder sur ça ce matin, ça va venir plus loin dans la série. Le Fils de Dieu vient pour sauver le monde. Quand l'Évangile de Jean commence sur des déclarations absolument extraordinaires sur la personne de Christ, sur la personne de Jésus de Nazareth. Des quatre évangiles qu'on a, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'Évangile de Jean est définitivement celui qui est le plus extraordinaire dans ses déclarations. C'est celui où on peut lire littéralement que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, mais qu'il est littéralement Dieu lui-même fait homme. C'est incomparable. Christ est présenté dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Et très, très tôt dans l'Évangile de Jean, sa mission est annoncée aussi. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? On lit dans Jean 1 au verset 9, « Cette lumière, parlant de Jésus, on le voit un peu plus loin dans Jean 1, 14, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc, sa mission était de venir éclairer tout homme. « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'introduction de l'Évangile de Jean, c'est qui est Jésus et quelle est sa mission. Il est plus grand que nature, il n'est pas simplement un sage, il est Dieu fait homme. Non seulement il est Dieu fait homme, mais il est celui par qui le Père a tout créé. Il est plus grand que nature. Et sa mission est de venir éclairer tous les hommes. Sa mission est de venir parmi les hommes pour les sauver. Le passage qu'on regarde, qu'Esther a lu tout à l'heure, a un sujet principal, c'est la personne de Jésus. Entre le verset 1 et le verset 51, tantôt on s'est concentré sur 35 à 51, il y a une tonne de choses qui sont déclarées sur Jésus. Des titres qui sont utilisés, des affirmations, des déclarations sur sa personne. Je vais juste les survoler, d'accord? Le sujet principal de cette section-là, c'est qui est Jésus. Et il est merveilleux. Il est magnifique. Il est plus grand que nature. Il est inconcevable. Maintenant, moi, ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est vous montrer que ce qui est dit au départ au tout début de l'Évangile de Jean, lorsqu'il dit « Cette lumière est venue parmi les hommes, et les hommes ne l'ont point reçue, mais à ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On a une illustration de ça en action dans la vie des premiers disciples. Puis là-dedans, on a la réponse à savoir « C'est quoi ton rôle à toi dans la mission? » Viens et vois. Invite tes amis à rencontrer Jésus. Mais commençons par Jésus, brièvement quand même, parce qu'il y a tellement de titres, on pourrait faire 10 messages juste sur tous les noms qui sont utilisés pour Jésus. Dans cette portion-là de Jean 1:1 jusqu'à Jean 1:51, il va être déclaré que Jésus est la lumière du monde, qu'il est la parole de Dieu, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est le maître dans le sens qu'il est celui qui nous enseigne la vérité, qu'il est le Messie, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur que les Juifs attendaient, celui que Moïse avait annoncé et dont tous les prophètes ont parlé. Il nous est dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le roi d'Israël, qu'il est la maison de Dieu. Juste dans ces 51 versets-là, il dit tout ça sur la personne de Jésus-Christ. Je vais juste vous donner quelques exemples. Il est la parole de Dieu, Jean 1, 14. Et la parole, dont il est question au verset 1, a été faite chair. Ça veut dire qu'elle est devenue un homme et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc, c'est l'apôtre Jean qui écrit cet évangile-là et il dit, nous, on a vu sa gloire. Nous, on est témoins. On sait que ce n'était pas juste un homme. Il y avait dans cette enveloppe-là plus qu'un être humain. Ce n'est pas possible ce qu'il y avait là. Puis on a vu sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les apôtres avaient la conviction profonde que Jésus venait de Dieu le Père. Après l'avoir côtoyé, après l'avoir entendu, après l'avoir vu faire des miracles, leur conclusion, c'est on a vu la gloire de Dieu, on a vu la gloire du Fils unique que le Père a envoyé sur la terre. Jean-Baptiste va déclarer de lui qu'il est l'agneau de Dieu au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste est un prophète. Il avait été envoyé pour préparer le chemin pour la venue de Jésus. Il va dire, « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean, c'était un prophète, puis les prophètes, des fois, ils disaient des choses inspirées par Dieu qu'ils ne pouvaient eux-mêmes pas comprendre entièrement. Je pense que Jean-Baptiste a pu comprendre une partie de son vivant, mais Dieu l'a rappelé d'une manière assez violente. Il est mort décapité avant que tout se passe avec la croix, puis le sacrifice, puis la résurrection. Donc, toute cette idée-là, même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, probablement qu'il est en train de faire référence à Ésaïe 53, où il est question, Ésaïe dans l'Ancien Testament, prophétie qui annonce que le Messie va venir et qu'il va être comme un agneau qui va être mené à la boucherie. Il va prendre sur lui nos péchés. Mais est-ce que Jean-Baptiste saisissait tout ça? Je pense pas. Lui-même, il y a des moments où il dit, « OK, attends un peu, là, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment toi le Messie? » Puis il envoie ses disciples poser des questions parce que là, il trouve que ça prend pas exactement la direction qu'il s'attendait. Et pourtant, Dieu lui a fait connaître qu'il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Celui que tous les prophètes ont annoncé, que Moïse avait annoncé dans l'Ancien Testament, mais dont tous les prophètes ont parlé, le Fils de Dieu. Nathanaël répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Les Juifs attendaient depuis des siècles un roi dans la lignée de David qui leur avait été annoncé par les prophètes puis qui viendrait restaurer la nation d'Israël. Puis Nathanaël, devant une intervention surnaturelle de Jésus, j'y viens dans un instant, va dire, « C'est toi le roi d'Israël. Celui qu'on attend, c'est toi le roi. C'est toi le roi. » Puis enfin, je termine sur quelque chose, c'est faut connaître un petit peu l'Ancien Testament pour pouvoir apprécier entièrement ce qui se passe là, mais quand j'ai dit qu'il est déclaré dans ce passage-là que Jésus est la maison de Dieu, c'est parce qu'à la toute fin du passage, Jean 1, 51, Jésus fait une déclaration. Et il lui dit, « en vérité, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Fils de l'homme, c'est un autre titre pour lui, j'aurais pu le mettre aussi. Mais il dit, devant la déclaration de Nathanaël, qui dit, c'est toi le Fils de Dieu, t'es le roi des Juifs. Là, Jésus, il dit, attendez, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Dorénavant, dans ce qui va suivre, les jours qui vont suivre, les années qui vont suivre, parce que là, ces gars-là vont voyager avec lui, ils vont voir des choses extraordinaires. Il dit, vous allez voir, comme les cieux qui sont ouverts, puis des anges qui descendent et qui montent au-dessus de moi. Puis en réalité, Jésus est en train de faire allusion à un passage dans l'Ancien Testament où un des patriarches, Jacob, va être dans le désert puis il va avoir une rencontre avec Dieu. Dieu va se faire connaître à lui puis il va y avoir une alliance qui va être contractée entre Dieu et Jacob. Puis au moment où ça se produit, Jacob a une vision. Je vous cite juste des petits passages ici. C'est dans Genèse 28, verset 12 qu'on trouve ça. « Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Vous voyez que c'est vraiment une allusion à ça que Jésus est en train de faire. Et puis donc, dans cette rencontre-là, Jacob, il dit, lorsque le songe part, il sait que Dieu lui a parlé à travers son songe, il dit, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est un lieu sacré parce que Dieu s'est fait connaître à moi ici, puis il va élever un autel là et il va appeler cet endroit-là Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire, dans Jean 1, il dit, je suis Bethel. Je suis Bethel. C'est moi la maison de Dieu. Et si vous voulez rencontrer Dieu, connaître Dieu, venez à Bethel, venez à moi. Puis c'est ça qu'on découvre à travers tous les évangiles. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le Sauveur des hommes. Il est vraiment extraordinaire. Il est plus grand que nature. Pour certains d'entre vous, c'est difficile à croire. Tu dis, OK, je comprends pourquoi vous êtes flyés. Si vous pensez tout ça sur Jésus, je comprends que vous soyez des capotés de Jésus. Mais si c'est vrai, il y a vraiment une raison, je m'excuse du langage, mais de capoter. Si c'est vrai. Parce qu'il est vraiment plus grand que nature. Si tout ça est vrai, il est plus grand que nature. Puis dans le passage, juste des perles qui nous aident à comprendre la réaction de ces premiers disciples-là quand ils vont rencontrer Jésus. On a tous ces titres-là, tout ce langage-là qui nous décrit Jésus, mais on voit Jésus aussi dans ses pouvoirs surnaturels. Il nous connaît. Jésus nous connaît dans son interaction avec Nathanaël. Jésus va le saluer quand Nathanaël vient à lui et va dire, « Celui-ci est un homme droit en Israël. » Puis là, Nathanaël, il dit, « Attends un peu, là, c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est d'où tu tiens ça? » Et Jésus lui répondit au verset 48 dans le passage de ce matin, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Je ne sais pas qu'est-ce que Nathanaël faisait en dessous de ce figuier-là, mais quand Jésus lui a dit, « Je t'ai vu », dans sa tête, il s'est dit, « Non, ce n'est pas possible que tu m'aies vu. C'est impossible que tu m'aies vu. » Puis c'est comme simple, c'est une anecdote, tu sais, c'est qui s'est passé sous le figuier, je ne sais pas. Mais quand vous prenez cette réaction-là où lui, dans son cœur, Nathanaël, il sait très, très bien qu'un être humain normal ne pouvait pas l'avoir vu sous le figuier. On passe d'un gars qui dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth, un petit village? T'sais? Est-ce que vraiment toutes les prophéties de l'Ancien Testament se seraient accomplies à travers Nazareth? Donc, on passe d'un gars incrédule, sceptique au moins, à un gars qui tout d'un coup fait une déclaration énorme. « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais dans son esprit à lui, Nathanaël, c'est une chose. Jésus le connaît. Il est connu par Jésus d'une manière surnaturelle. Et c'est des fois, c'est simple, hein? C'est juste là, c'est dans le texte. Qu'est-ce que ça nous dit sur Jésus? Bien, s'il est la parole, s'il est le Fils de Dieu, s'il est Dieu incarné, Dieu fait homme, le Messie, le roi d'Israël, il est souverain et il nous connaît. Il nous connaît personnellement. Il connaît les gens qui doivent entendre l'Évangile. Il connaît les gens vers qui on va aller annoncer l'Évangile. Il nous sauve et nous transforme. Il dit à Simon, bon, il faut connaître Pierre, peut-être vous ne le connaissez pas très bien, mais Pierre, c'était tout un numéro, c'était un homme qui avait une grande confiance en lui, qui se mettait souvent le pied dans la bouche parce qu'il était le premier à dire « OK, Seigneur, on va faire ça », tu sais, alors qu'il aurait dû juste écouter puis tout ça. Mais Pierre, malgré toutes ses bévues qu'on découvre plus tard dans les évangiles, plus tard, Pierre va devenir vraiment un instrument important entre les mains de Dieu après que Christ soit crucifié, qu'il ressuscite d'entre les morts, qu'il monte auprès du Père, Pierre va vraiment jouer un rôle fondamental dans l'Église. Cet homme-là, tout croche, puis maladroit, puis insécure, puis souvent sceptique, impulsif, va devenir un homme extrêmement important. Et donc, c'est ça que Jésus fait ici lorsqu'il dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, parce que tu vas être une des pierres de touche de l'Église. Jésus nous sauve et nous transforme. » Alors, voyez-vous, l'Évangile de Jean nous affirme et nous déclare clairement que Jésus est extraordinaire et qu'il est envoyé dans le monde avec une mission très claire. C'est de venir éclairer les hommes, de venir sauver les hommes. C'est ça sa mission. Et il nous connaît. Tous ceux ici qui ont embrassé la foi chrétienne, qui sont devenus chrétiens, au moment de votre conversion ou dans les jours qui ont suivi, vous avez su à quelque part à l'intérieur de vous-même que Dieu vous connaît, que Dieu vous connaissait depuis longtemps, que Dieu avait son regard sur vous. Plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des transformations que Dieu amène dans notre vie, que Dieu transforme souvent, de temps en temps, pour être honnête. Je m'arrête, puis j'imagine ce que ma vie aurait été si je n'avais pas connu Jésus-Christ. J'ai des frissons à chaque fois que j'y pense. Parce que la trajectoire n'était vraiment pas bonne. Ma trajectoire n'était pas bonne. La famille que Dieu m'a accordée d'établir, l'amour que Dieu m'a donné pour les gens, la personne qu'il fait avec moi de plus en plus d'année après année, puis c'est pas simplement moi qui est dans un processus de devenir meilleur. Pour moi, devenir meilleur serait représenter tellement d'autres choses que ce que je suis à cause de Jésus-Christ. Donc, je sais intimement, personnellement, dans mon expérience, que Jésus-Christ nous transforme à son image. Maintenant, très, très tôt dans l'Évangile de Jean, dans les premiers versets, il y a quelque chose d'énorme qui est déclaré, qui est important. C'est que tous ne le recevront pas. Il est cet être plus grand que nature. Il est extraordinaire. Et bientôt, je vais t'inviter à faire une démarche, si tu doutes de ça, pour évaluer ça par toi-même. Mais tous ne le recevront pas. Au verset 10, parlant de Christ, « Cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Il est le créateur de l'humanité, de l'univers. Et le monde ne l'a point connu. » De manière plus personnelle et directe, parlant des Juifs eux-mêmes, elle est venue chez les siens, parce que c'est son peuple, le peuple d'Israël. Et les siens ne l'ont point reçu. Ah, c'est une chose que des gens qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, puis qui ne connaissent pas les prophéties, puis qui entendent parler de Jésus, c'est une chose que ces gens-là ne croient pas en Jésus-Christ. C'est autre chose que le peuple qui étudie l'Ancien Testament depuis des siècles et des siècles et des siècles, devant la personne de Jésus-Christ, ne reconnaissent pas leur Messie. Mais les choses devaient être ainsi. Les choses devaient être ainsi. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui va croire et voir combien Christ est merveilleux et extraordinaire. Je ne vois pas dans l'Écriture de moment où l'Église est appelée à représenter la majorité de la société. Je ne le vois pas dans la parole, je le vois juste au retour de Christ, avec une nouvelle société que Christ va établir. Mais autrement, je ne le vois pas dans les Écritures. L'Église n'est pas appelée à être la majorité de la société parce que la majorité ne vont pas le recevoir, ne vont pas croire en lui. Puis il y aurait même tout un argument pour défendre l'idée que chaque fois que l'Église semble devenir majoritaire, on sait déjà qu'on est en train de ne plus vraiment avoir l'Église. Okay? Fait que si vous voulez étudier l'histoire de l'Église, là, quand vous voyez l'Église devenir trop populaire, le christianisme dans une culture, vous savez qu'on est en train de perdre le christianisme. Et fondamentalement les choses qui sont reprochées au christianisme à travers l'histoire de l'Église. À tout coup, ce sont des endroits où le christianisme devient majoritaire dans la culture. Fait qu'il y a, ça manque peut-être de chrétiens dans ces églises-là, d'accord? Ça manque peut-être de christianisme dans cette espèce de christianisme social-là. Tous ne le recevront pas. Mais ceux qui croient en lui sont transformés, au verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir. On pourrait même dire le monde ne le recevra pas, les siens ne le recevront pas. Je veux dire, l'Église n'a jamais, sinon dans les premiers mois, les premières années, l'Église n'a jamais été composée d'une majorité de Juifs qui ont l'Ancien Testament puis qui croient en Jésus. Rapidement, l'Église a été composée de non-Juifs qui se sont convertis en majorité, en grande. Il y a encore aujourd'hui des Juifs qui reconnaissent leur Messie, mais la majorité, non, c'est pas ça. Mais, au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom étant Jésus de Nazareth. » C'est une personne, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée sur Dieu en laquelle on croit. C'est une personne que l'on a appris à examiner, à connaître. Je viens à ça dans un instant. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Pas d'une manière naturelle comme ma mère m'a mis au monde, mais d'une manière spirituelle. Et Dieu nous a accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être transformé à l'image de Christ et progressivement transformé à l'image de Christ. Ça nous ramène dans la série, troisième message, lorsqu'on a parlé de notre identité en Jésus-Christ. Dieu nous a accordé le pouvoir de vivre à la lumière de cette nouvelle identité-là. Et s'il y a un domaine dans ta vie où tu dis, « Dieu ne m'a pas accordé ce pouvoir-là. » La preuve, c'est que je lutte avec tel domaine dans ma vie, avec tel péché, puis je n'arrive pas à me sortir de ça. Désespère pas. Si tu es chrétien, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu et l'Esprit-Saint est en train d'exercer une œuvre en toi. Puis si tu souffres dans un domaine où tu dis, « Oui, mais j'aimerais tellement ça, être une meilleure personne, plus ressembler à Jésus. » Continue à te repentir. Quand tu te plantes, tu te pètes la gueule, retire-toi avec Dieu, repends-toi. Confesse-le au Seigneur et dis, « Seigneur, quand est-ce que tu vas me faire grandir dans ce domaine-là? Je veux te glorifier. Je suis malheureux de cette stupidité-là que j'ai faite encore. » Simplement parce que ce pouvoir-là t'a été donné. Et comme Église, si tu regardes l'Église et tu dis, « Oui, mais l'Église, c'est comme, elle ressemble tellement pas à ce que ça devrait être. » Le jour où tu vas te dire, « Ça ne fonctionne pas, l'Église. » Puis tu vas quitter l'Église. C'est le jour où tu vas arrêter de croire la parole de Dieu. Ah, l'Église n'est pas parfaite, là. Elle est loin d'être parfaite. Elle est composée d'une tonne de personnes qui ont des domaines dans leur vie où ils disent, « Seigneur, quand est-ce que je veux arrêter de pécher encore de cette manière-là? » Fait que c'est sûr que si tu en mets 300-400 ensemble qui font ça, c'est pas toujours joli. Mais la beauté de l'Église, c'est dans ce que nous vivons ensemble à la lumière de l'Évangile. On s'accueille avec nos combats, avec nos luttes. On s'accueille, puis on s'aime, on prend soin les uns des autres, puis on prononce l'Évangile les uns sur les autres. Tu viens me voir, puis tu es découragé, puis au lieu de te juger, puis prendre la distance, je veux dire, regarde, laisse-moi te redire encore l'Évangile, laisse-moi te dire combien Christ t'a aimé, laisse-moi te dire qui tu es en Jésus-Christ, laisse-moi t'aimer à travers ça. Tu n'es pas toujours aimable, mais en Jésus-Christ, je vais t'aimer, je vais t'accueillir. Le pouvoir a vraiment été donné à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Et Christ le fait dans l'Église. Si vous êtes à cette assemblée depuis des années, vous êtes témoin de ça. Puis pas cette Église-ci plus qu'une autre, parce que Jésus le fait à travers ses Églises. Mais si à travers les moments de doute, vous avez le goût de vous retirer, puis vous dites, je souffre tellement quand je rentre en relation avec ces gens-là, ils ressemblent tellement pas à Jésus. Si vous retournez aux Écritures puis vous trouvez la grâce dans l'Évangile de persévérer, vous avez des dizaines et des centaines d'histoires à raconter où vous voyez le pouvoir de Jésus-Christ pour transformer une communauté, où on apprend à s'aimer puis à s'accueillir à cause de Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi notre rôle dans la mission? Et je termine avec ça ce matin. On a une seule chose à faire, c'est les inviter à rencontrer Jésus. C'est comme si dans le passage de Jean 1, 35 à 51, il y a quelque chose où, quand tu le lis la première fois, tu te dis, OK, est-ce que c'est vraiment un message? Il y a un pattern qui se passe là, où André est, d'après moi, avec Jean, mais Jean ne se nomme pas, c'est lui l'auteur de la lettre, fait qu'il ne se nomme jamais. D'après moi, il est avec Jean, puis là, ils sont avec Jean-Baptiste, parce qu'ils ont compris que Jean-Baptiste était vraiment un prophète. Puis là, Jésus passe, puis Jean-Baptiste, il dit, c'est lui l'agneau. Fait qu'eux autres, ils disent, bon, mais OK, merci. Tu étais là juste pour annoncer l'autre. Fait que nous, on va aller suivre l'agneau. Puis là, ils vont avec lui, puis ils deviennent ses disciples. Puis là, André, en l'écoutant enseigner, puis tout ça, il dit, aïe, aïe, OK, on a vraiment trouvé le Messie. C'est vraiment lui, celui qui avait été annoncé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher son frère Pierre, puis il dit, « Pierre, il faut que tu viennes rencontrer Jésus. » Puis après ça, on voit le même pattern qui se reproduit avec Philippe, qui va croiser Nathanaël, puis il va vers Nathanaël, puis il dit, « Viens, il faut que tu viennes rencontrer Jésus. Viens et vois. » Puis Nathanaël est sceptique, puis il dit, « Attends un peu, tu m'as dit qu'il venait d'où, lui? » De Nazareth. Pff, voyons donc, ça concorde pas. Écoute, moi, je connais ma Bible, man. Ça marche pas. C'est pas Nazareth. C'est n'importe quoi, cette affaire-là. Tu sais. Il est sceptique. Tout ce que Philippe fait, c'est qu'il dit, Nathanaël, viens et vois. Viens te faire une tête là-dessus. Viens juger par toi-même. Viens le rencontrer. Fait que quand tu étudies ce passage-là, tu dis, est-ce que c'est juste une anecdote? C'est juste comme ça s'est passé comme ça? Ou est-ce que vraiment Jean est en train de nous dire, c'est ça que les chrétiens sont appelés à faire. Viens et vois. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Maintenant, quand on le place dans le contexte de tout ce que je vous ai dit ce matin, voyez-vous le mouvement, c'est que Dieu le Fils, celui qui est appelé la parole au début, vient parmi les hommes pour apporter la lumière, pour sauver les hommes. C'est un missionnaire qui part de la présence de son Père, qui vient marcher parmi les hommes pour sauver les hommes. Mais le monde ne le reçoit pas. Mais à ceux qui l'ont reçu. Le monde ne le reçoit pas, mais à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont cru en son nom, en Jésus de Nazareth, qui ont investigué, qui ont étudié, qui ont regardé, puis ont dit, aïe, aïe, c'est vrai finalement, c'est capoté, mais c'est vrai! À ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ceux qui ont cru, qui ont reçu, ils ont maintenant une mission. Ils ont cru, ils ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vers leurs amis. Ils vont aller vers les gens qu'ils aiment. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu crois en lui, quand tu reçois cette personne-là dans ta vie, c'est pas possible que tu te dises, je voudrais surtout pas que ma famille le sache. C'est comme si pour moi, cette affaire. Je ne veux surtout pas que mes collègues le sachent. Puis là, on s'essaie, on annonce l'Évangile un peu, puis papaou! Tu te fais ramasser, puis mon cabochon, parle-moi plus de ça, ces affaires privées, je ne veux pas entendre parler de ça, tu es un flyé, tu es un capoté. Regarde ce que le christianisme a fait, tu sais, il a détruit des sociétés, puis tu vois, ils ont fait des croisades, puis là, tu es là, puis tu te dis, le christianisme, arrête, c'est n'importe quoi. C'était pas le christianisme, cette affaire-là. C'est un système politique qui servait à dominer des gens. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Viens et vois. Viens et vois. Viens rencontrer Jésus-Christ. Donc, ce que je vous suggère, ce que je vous soumets ce matin, c'est que notre rôle à nous, ça s'arrête là. Parce que si Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il ne m'a pas donné le pouvoir de produire des enfants de Dieu. Si Dieu m'a donné à moi, parce que j'ai cru, puis à toi, si tu as cru, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il ne t'a pas donné le pouvoir de faire des petits chrétiens. Ou rentrer dans la tête des gens, puis faire d'eux des chrétiens. Si tu étais le meilleur débatteur au monde, tu vas réussir à faire une défense logique, sensée pour le christianisme. Ça se défend en tableau, le christianisme. Puis il y a toute une science de l'apologétique, de la défense de la foi. Puis mais tu serais le meilleur débatteur, le meilleur argumentateur, tu aurais tous les arguments. À la fin, ça se peut très bien que la personne te dise « OK, j'ai plus de réponse, mais non merci. » Parce que ça ne te donne pas le pouvoir de faire des enfants de Dieu. Ce que toi, tu as comme pouvoir, c'est de témoigner de ce que Christ a fait pour toi. C'est de témoigner de la rencontre que toi t'as faite avec Jésus-Christ. Alors, regardez dans le passage ce qui se passe. « Viens et vois », ça signifie « viens puis évalue ». ».« Viens puis examine ». Philippe, il dit quoi à Nathanaël? Bien, il dit « viens voir ». OK, tu trouves ça malade, ça n'a pas de bon sens. Viens, viens le rencontrer, puis examine la question. Et tu dis, je te dis que j'ai rencontré le Messie, tu sais, je te dis que j'ai rencontré le Fils de Dieu. Tu peux couper nos relations puis dire, aïe, aïe, OK, bon, il est embarqué dans une secte, on ne se reparlera plus jamais. Mais je veux dire, si jusqu'ici tu pensais que j'avais une tête sur ses épaules, viens au moins examiner ce que je te dis, parce que si c'est vrai, écoute, tu veux dans ta vie, ça n'a pas de bon sens. Viens et vois, c'est tout. Puis tu n'es même pas obligé de croire. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de te faire croire. J'ai juste le pouvoir de t'amener vers Jésus. Puis qu'est-ce que Nathanaël va faire? Nathanaël s'en va le sceptique. Il n'est pas convaincu pantoute. Il est sûr que ce n'est pas vrai, cette affaire-là. Bon, il s'est fait avoir par un autre faux messie juif, parce qu'il y en avait plein à l'époque, soit dit en passant. Fait que, aïe, aïe, mon frère, Philippe, tu t'es fait embarquer dans une niaiserie. Bon, OK, je vais aller le voir, ton Jésus, puis je vais aller te montrer que tu t'es fait avoir, tu sais. Bien, si tu as un de tes amis qui te dit ça, c'est parfait. C'est parfait. Dis, sauve-moi de ma secte, s'il te plaît. Viens me sauver de ma secte. Viens examiner Jésus. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Peut-être pas. Peut-être que tu ne le recevras pas. Peut-être que tu ne croiras pas. Il y en a plein qui ne croient pas. Viens et vois, ça veut dire viens et examine, évalue. Puis l'autre chose, c'est viens et vois. Ça veut dire, viens vivre ça avec tes amis. C'est André qui en parle à Pierre. C'est Philippe qui en parle à Nathanaël. Puis les gars sont là, puis ils discutent, puis ils rencontrent, puis après ça, ils discutent de ces choses-là pour voir, oui, mais c'est complètement fou. Les gars vont passer 3 ans à se poser des questions, puis des fois, ils ont l'impression qu'ils ont compris qui il est, mais finalement, il est encore plus grand qu'on pensait. On commence l'évangile de Jean avec la conclusion, tu sais. On a vu, on a reconnu qu'il avait la gloire de Dieu, on a reconnu que c'était la parole. Mais oui, Jean, il a catché ça comme 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Au début, c'était juste par petits morceaux, il découvrait qui était Jésus. Fait que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus est plus disponible, il n'est pas en tournée. Bientôt à Longueuil, vous allez pouvoir aller le rencontrer, amener vos amis. Et puis là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ouvrir l'Évangile avec des amis. Ça veut dire inviter des amis à entrer dans ma vie. Ça veut dire les inviter à manger, à questionner avec nous, à cheminer avec nous. Parce qu'ils vont découvrir Jésus-Christ à travers notre vie et à travers l'Évangile. Dans Matthieu 5, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si la terre perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. » Dans Jean, il nous est dit que c'est Jésus la lumière du monde, puis Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, « Maintenant, c'est vous la lumière du monde. » C'est vous maintenant qui pouvez conduire vos amis à moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? Aujourd'hui, en 2019, cette année, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'aller vers tes amis, ta famille, puis dire, viens et vois. Je sais que tu trouves que je suis flyé, mais prends juste le temps de t'arrêter. Peut-être qu'il peut sortir quelque chose d'extraordinaire de Nazareth, en fin de compte, d'une petite ville. Peut-être que c'est possible qu'il y ait un homme dans une religion, une seule religion qui ferait que toutes les autres seraient fausses. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui, mais peut-être que c'est possible qu'il y ait un homme dans une religion qui viendrait d'un tout petit pays, avec des gens qui ne sont pas beaucoup aimés dans le monde, les Juifs. Puis ce serait lui, le sauveur des hommes, ce serait lui le créateur des cieux et de la terre. Puis je sais que c'est malade, mais ça a transformé ma vie. Fait que je vais t'inviter à manger chez nous, je vais t'inviter à découvrir ma famille, je vais t'inviter à venir servir avec moi à Bouffe pour tous, je vais t'inviter vendredi saint, on va avoir un événement, inviter son prochain. La conférence qu'on va avoir en fin de semaine prochaine, c'est pour apprendre à inviter les gens marginaux, à les inviter à venir rencontrer l'Église. Je vais t'inviter le dimanche matin à l'Église. Je vais t'inviter à entrer dans ma vie. Je vais t'inviter à ce qu'on rouvre les Évangiles ensemble. Puis tu sais quoi? Je ne vais pas essayer de te changer. Parce que ce pouvoir-là, moi, je ne l'ai pas. C'est, chaque fois que j'essaie de prendre ce pouvoir-là sur moi, ça me paralyse. J'arrête de parler de Jésus. Mais je vais juste t'amener à voir qui il est dans l'Évangile. Puis on va lire ensemble la Bible. Cette semaine, tu as un collègue qui dit, tu sais, tu sens comme qu'il est curieux, mais il ne veut pas parler de ça parce qu'il ne voudrait pas, tu vas me parler de ton affaire puis tout ça, tu sais. Pourquoi tu ne le challengerais pas en disant, je sais que tu trouves ça weird, mais est-ce que tu savais que l'Occident était bâti sur les valeurs chrétiennes? L'Occident était bâti sur des valeurs chrétiennes, littéralement. Fait que ça serait peut-être intéressant juste qu'on dîne ensemble une fois par semaine, une fois par deux semaines, puis tu passes tranquillement à travers un des quatre évangiles, puis je veux juste t'aider à comprendre le texte, parce que c'est vrai que c'est loin, puis tu te feras une tête par toi-même. Viens et vois. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Comme Église, notre prière, c'est qu'on puisse vivre cette année en 2019 à la lumière de notre identité en Jésus-Christ. Cette identité-là, qui on est maintenant à cause de notre foi, nous est rappelée dans la parole. Je vais quotidiennement dans les Écritures pour que ce soit ça la cassette qui tourne dans ma tête. Pas « t'es pas bon, t'es pas capable ». Non, j'ai besoin que l'Évangile me soit rappelé. Puis je vais dans la prière pour connecter avec Dieu puis dire, voici ce que tu m'as dit ce matin, Seigneur. Puis comme Église, on veut vivre à tous les jours en se rappelant, j'ai reçu et j'ai cru en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle personne maintenant. Puis on est une nouvelle communauté aussi. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inviter simplement notre prochain à venir se faire une tête par lui-même, à prendre une décision par lui-même. Et notre mission à nous, ce n'est pas de convertir les gens. On n'a pas ce pouvoir-là, les amis. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Notre mission à nous, c'est juste de dire à notre prochain, les gens autour de nous, viens et vois. Tu prendras une décision par toi-même. On va prier. Père éternel, merci pour ce beau passage, Seigneur, qui nous rappelle que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui sauve, c'est pas nous. Je suis pas capable, Seigneur, de convertir les gens. J'aimerais tellement ça. Il y a des gens pour qui je pleure à chaque semaine, Seigneur, parce que je voudrais pouvoir leur donner ce qu'il y a dans mon cœur à moi. Pour toi, je voudrais qu'ils l'aient aussi. Puis je les vois souvent prendre des décisions qui les rendent tellement malheureux. Puis j'aimerais ça, Seigneur, pouvoir juste faire cette connexion-là, d'expérience à expérience, mais ça, c'est entre tes mains, Seigneur. Moi, j'ai connu. J'ai connu que Jésus de Nazareth est le Sauveur des hommes. J'ai connu que tu es le Fils de Dieu. J'ai connu que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui permet que je sois pardonné, réconcilié avec ton Père. Et nous avons connu cela, Seigneur. Accorde-nous ce plaisir, Seigneur, cette année, ce courage, cette naïveté, cette simplicité d'inviter notre prochain, d'inviter nos collègues, d'inviter nos amis, d'inviter nos voisins à venir et voir qui est Jésus. En ouvrant la Bible, en les invitant un dimanche matin, en les invitant à des événements de l'Église, en les invitant simplement à venir manger chez nous, en toute simplicité, à venir manger chez nous avec des amis, puis en connectant avec eux. Et Seigneur, toi, tu vas te faire connaître à ceux que tu désires, Seigneur. Sois béni, c'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Amen.